C'est pour ça que c'est si important de ne pas séparer, de ne pas opposer philosophie première et éthique, mais de bien les distinguer. Quand on commence à confondre philosophie éthique et philosophie première, on fait une mésalliance. Parce qu'alors on tombe dans un immanentisme absolu. C'est très curieux. On essaiera de comprendre ça. Et je crois que les philosophies post-hégéliennes ont eu beaucoup de peine de redécouvrir la distinction entre philosophie première et éthique. C'est pour ça que c'est un des problèmes important de notre monde d'aujourd'hui, de bien distinguer, de bien arriver à distinguer la philosophie éthique, qui est une philosophie pratique. Il ne faut pas croire que la philosophie, c'est toujours quitter le pratique. La philosophie humaine est pratique. Elle doit être pratique. Il y a une philosophie du pratique. Le pratique aux divers demeures. L'aspect éthique, il y a l'aspect artistique, il y a l'aspect politique. Il y a trois grandes demeures. Et c'est la philosophie pratique, c'est la philosophie du concret. Parce qu'en éthique, on est toujours dans le concret. En philosophie de l'art, on est toujours dans le concret. Et en philosophie politique aussi. philosophie qui cherche la philosophie, qui cherche la vérité, regarde l'homme. Pourquoi? Parce que l'homme, c'est la réalité la plus parfaite que vous pouvez immédiatement expérimenter. Aucune autre réalité plus parfaite que l'homme, vous pouvez l'expérimenter directement. Vous ne pouvez pas commencer votre philosophie par Dieu, parce que vous n'avez pas l'expérience immédiate de Dieu. Vous ne pouvez pas commencer la philosophie par le petit chien. Parce que le petit chien, si noble qu'il soit, grâce à son patron, le petit chien reste une réalité inférieure à l'homme. Et donc je ne peux pas faire la philosophie du chien. Par humour. Ce sera très intéressant, philosophie du chien. Et par la philosophie du chien, vous pourrez voir jusqu'où vous pouvez aller. Mais vous faites la philosophie de l'homme parce que l'homme, c'est le vivant le plus parfait que vous pouvez expérimenter. Si vous faites une philosophie réaliste, elle ne peut être que la philosophie de l'homme. Et c'est la philosophie de l'homme que nous faisons. C'est ça qu'il faut faire. Certains d'entre vous, ce petit dialogue que j'avais eu il y a quelques années avec des prêtres ouvriers. Je prenais mon repas avec eux et ils me demandaient qu'est-ce que vous faites. J'ai expliqué que j'étais professeur de philosophie à Fribourg. Alors ils me disaient, quelle philosophie enseignez-vous? Je comprenais très bien ce qu'il y avait derrière. Alors, je réponds, mais vous croyez qu'il y a plusieurs philosophies? Il n'y a qu'une philosophie. Regardez, mais oui, il n'y a qu'une philosophie. Une philosophie qui essaie de comprendre ce que c'est que l'homme. Si on fait de la philosophie, c'est pour comprendre ce que c'est que l'homme. C'est pas pour autre chose. C'est uniquement pour ça. Si vous êtes prêtre ouvrier, c'est pour commettre l'ouvrier. Alors il me dit, oui, c'est vrai. Et oui, c'est pas suffisant de connaître l'ouvrier. Parce que l'ouvrier est en position dialectique, d'opposition avec le patron. Alors, en faisant la philosophie d'ouvrier, comment connaîtrez-vous le patron? Difficilement. Il faut donc dépasser l'ouvrier pour voir ce qu'il y a de commun avec le patron. Tous les deux sont des hommes. Il faut donc dépasser l'ouvrier pour découvrir l'homme. J'ai essayé de développer ça. Au bout d'un certain temps, ils ont compris qu'en effet, on ne pouvait pas connaître l'ouvrier sans connaître l'homme. C'est l'homme ouvrier qui m'intéresse. C'est pas l'ouvrier tout court. C'est pas le patron qui m'intéresse. C'est l'homme patron. C'est ça qu'il faut comprendre aujourd'hui. Au-delà des positions dialectiques, il faut redécouvrir une position réaliste qui n'est pas la synthèse des opposés, qui est la réalité qui existe. Et parmi les réalités qui existent, il y en a une plus noble que toutes les autres, c'est l'homme. Donc une philosophie réaliste, c'est la philosophie de l'homme. Vous essayerez petit à petit de bien comprendre ça. Il faut là en avoir l'évidence pour ne pas tomber dans les panneaux. Il faut en avoir l'évidence qu'une philosophie réaliste ne peut être qu'une philosophie de l'homme. Parce qu'une philosophie réaliste part de l'expérience. Et la réalité que j'expérimente immédiatement, la réalité la plus noble que j'expérimente, c'est l'homme. Vous n'expérimentez pas les anges. C'est pour ça qu'au plan philosophique, les anges, c'est une très belle hypothèse. C'est une très belle hypothèse. Et beaucoup de philosophies ont mis l'hypothèse des anges, les éons, en néoplatonisme. n'ai jamais rencontré un martien, philosophiquement parlant. Et vous n'avez jamais rencontré Dieu. Je dis bien rencontré. Au plan philosophique. Ah, c'est très important hein, d'avoir ce réalisme-là. Qu'est-ce que je rencontre au point de vue philosophique? C'est l'homme. Anthropologie qui fait fureur. véritable anthropologie accepte le dépassement par la philosophie première. Les deux extrêmes de la philosophie, l'éthique et la philosophie première. Je dis bien les deux extrêmes, et je crois que c'est vraiment les deux extrêmes. Parce que c'est en éthique que je veux découvrir mon premier absolu. Et en philosophie première que je découvre le premier absolu au sens absolu. Tandis que l'absolu que je découvre en éthique, c'est le premier absolu au niveau génétique. Ce n'est pas au niveau absolu. plus ancienne, plus ancienne que la philosophie première, génétiquement parlant. C'est très curieux. Au fond, la philosophie, j'allais presque dire, elle a commencé par l'éthique. Les pythagoriciens, c'est vieux les pythagoriciens. Les pythagoriciens, c'est des philosophes religieux. C'est des philosophes de la ascèse. C'est des philosophes qui vivent en communauté religieuse. Vous voyez que la vie religieuse ne s'oppose pas à la philosophie. Puisque l'éthique n'est parfaitement vécue que dans certaines petites communautés religieuses. Les pythagoriciens. Je ne dis pas que nous sommes des néo-pythagoriciens. Mais il faut respecter ces petites mauvaise volonté. Aristote est le premier qui, à côté de la connaissance, met un nouvel élément, la volonté, la poulessis. C'est le premier. Je sais très bien qu'en disant ça, je m'oppose à toute une série d'interprétations d'Aristote, mais ça me semble impossible. Si on lit loyalement Aristote sans a priori, de prétendre qu'Aristote n'a pas compris ce que c'était que le volontaire. Il le dit explicitement dans l'éthique. L'acte n'est humain que s'il est volontaire. Et donc il reconnaît que le volontaire fait partie de l'acte humain, de l'acte humain, de l'acte moral. Tandis que pour Platon, parce que vous avez...